Et je vais vous lire un texte, c'est un des textes les plus puissants de l'Écriture et certainement l'un des plus énigmatiques, c'est le texte sur l'épisode de Jésus quand il se rend au jardin de Gethsémané. Donc ça se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 26 et donc je lirai quelques extraits hein, du verset 36 jusqu'au verset 46. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané, et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et un peu plus loin, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et trouva encore endormis les disciples, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta et s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors vous allez me dire, quel est le lien entre ce passage que je viens de vous lire et ce que nous avons partagé ce matin sur l'Église persécutée? Ben, tout simplement, je dirais, c'est l'endurance face à la douleur, face à la souffrance. Alors, on peut lire, hein, on l'a vu aussi dans Portes ouvertes pour ceux qui reçoivent le mensuel, que ce que l'on a entendu ce matin témoigne de la résistance morale, psychologique des personnes qui subissent la torture, la violence dans leur corps, leur âme et leur esprit. Donc c'est quand même riche d'enseignements. Alors leur expérience limite rejoignent en même temps un peu ce que Jésus a traversé au jardin de Gethsémané. Et on peut faire un parallèle avec les souffrances que Jésus a éprouvées dans ce jardin. Et par contre, au sujet des chrétiens persécutés, c'est vrai que nous sommes limités parce qu'il est difficile de les côtoyer. Hein, ce matin, je vais parler de la présence physique. Mais même si on est limité, on peut quand même les soutenir financièrement, les parrainer. Donc, le parallèle s'arrête là. Mais il met quand même en évidence une chose, c'est la nécessité, je dirais, du soutien humain, matériel, quelles que soient les circonstances et selon les moyens dont nous disposons. Alors il y a une chose qui ressort très fortement dans la Bible, et tout particulièrement à Gethsémané, c'est la présence humaine à côté de ceux qui souffrent pour soulager et aussi pour être soulagé soi-même. Et ce matin, je veux vous montrer que Jésus a eu besoin de ses disciples pour traverser cette épreuve. Et que s'ils avaient été plus présents et certainement plus proches, eh ben, peut-être, j'aimais cette hypothèse, que Jésus aurait un peu moins souffert. Alors, ça peut vous paraître contradictoire parce que, l'on retient souvent que Jésus, quand il était à Gethsémané, eh ben, il y avait les disciples qui étaient endormis. Mais malgré tout, ils étaient là, ils étaient présents. Et au moment d'entrer dans le jardin à Gethsémané. Et Jésus a eu besoin de les voir ou au moins de savoir qu'ils étaient là, qu'ils étaient proches. Et que ses disciples, même s'ils dormaient, ils n'avaient pas abandonné Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient été réveillés et à côté de Jésus, après son moment où il a désiré être seul, peut-être que Jésus aurait un peu moins souffert. Bon, c'est une hypothèse, hein. Et peut-être que son agonie aurait été différente. Alors cela n'explique pas tout, en effet c'est un passage qui au-delà de l'expérience humaine s'inscrit dans un plan beaucoup plus grand, un cadre spirituel et céleste, mais pas uniquement. Jésus a dû quand même puiser dans ses forces strictement humaines, et à un certain moment, la présence de ses disciples aurait soulagé son tourment, et peut-être évité cet épisode un peu étrange des caillots de sang. Alors, pour tous ceux qui traversent les épreuves et qui ont besoin d'avoir, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui les soutiennent humainement. C'est ça qui m'intéresse ce matin. Et ça me donne une leçon. Celui qui pense que de prier pour nos proches suffit parce que le Saint-Esprit les console et que la Bible les enseigne, font fausse route. Alors, bon, là je nuancerai parce que quand je regardais un peu ces témoignages, on a vu quand même des personnes qui étaient persécutées et qui n'avaient pas forcément un soutien humain autour d'eux, et quand même là, le Dieu était présent avec eux. Mais ce qui, quand même, dans la leçon de Gethsémané, Jésus nous montre qu'il a besoin d'une présence humaine, c'est ce que veut dire et c'est ce que nous devons pour nous aussi apprendre, qu'on doit être présent, actif et engagé dans la mesure, bien sûr, de nos possibilités. Alors attention, hein, je ne remets pas en question la prière ni la lecture de la parole de Dieu, mais Dieu nous demande, si on a les moyens, de mettre les moyens humains et matériels pour soutenir les personnes qui traversent des difficultés, qui souffrent. Et il nous demande de nous y engager. Il ne faut pas rester que sur un domaine strictement, je dirais, spirituel. À ce matin, nous allons voir que la présence humaine, quelle que soit sa limite, est nécessaire parce que Jésus lui-même en a eu besoin. Parce que sans quoi il ne serait pas revenu trois fois revoir les disciples qui, bien sûr, ils venaient voir. Alors il venait les voir pour voir s'ils tenaient le coup, mais je pense aussi qu'il avait besoin de venir les voir peut-être pour avoir du réconfort. Et être présent pour ceux qui souffrent. Alors physiquement, si on est à côté, ou matériellement, ou psychologiquement, en manifestant, si vous voulez, notre soutien et par notre présence. Alors on peut le faire de différentes manières, hein. On peut pas être présent physiquement pour tout, hein. En prenant des nouvelles, en parrainant, en soutenant financièrement. C'est en partie un petit peu ce que je retiens de cet épisode de Gethsémané, où Jésus a tant souffert. Et à travers cette expérience, Dieu nous ordonne d'être des compagnons. Voilà, c'est ce qui est un petit peu central. Il nous demande d'être des soutiens, d'être remplis d'humanité et d'empathie. Et c'est un enseignement pour nous, hein, pour notre Église. Hein. Bon, de ce côté-là, on fait des choses et c'est encourageant. Mais pour moi, c'est aussi une leçon, pour moi personnellement, dans laquelle je sens que je dois progresser. Alors ce matin, je vais vous parler sur Gethsémané qui parle de la présence de Dieu dans la douleur, mais aussi à un moment donné, l'absence de Dieu dans la douleur. À un moment donné, ben Jésus il se retrouve un peu seul, quoi. Parce qu'à un moment donné, Jésus s'est retrouvé seul face à lui-même. Et c'est là, si vous voulez, c'est important quand même de le retenir là, parce que c'est là où on mesure toute son humanité et aussi toute la force de son sacrifice. Parce qu'il avait quand même le désir le plus profond de sauver ceux qu'il avait choisis. Et cela ne nous dit pas que Jésus va nous laisser seuls, mais cela nous dit qu'il comprend la douleur de ceux qui, eux, se sentent parfois abandonnés. Alors c'est vrai qu'à Gethsémané, on est confronté pour la première fois à une situation un petit peu paradoxale, où Jésus ne peut rien faire pour éviter sa mission. Pourquoi ? Parce que, en même temps, il ne le veut pas, mais en même temps, il avoue qu'il aimerait pouvoir éviter de souffrir. Hein, il le dit, hein. C'est là où on sent qu'il traverse un moment quand même particulièrement délicat. Il dit, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. » Et à ce moment-là, donc, on voit quand même un Jésus qui est fragile et qui est désemparé. Et il va devoir se retrouver seul pendant un moment. Mais il aura besoin plus tard donc de ses disciples. Après ce moment d'isolement où il est face à face avec lui-même et où aussi il s'adresse à Dieu, mais voilà, c'est un moment terrible pour lui. À ce moment-là, il trouve les disciples endormis. Donc Jésus, il faut savoir une chose, c'est que Jésus aurait pu renoncer à sa mission. Alors à ce moment-là, il aurait cédé à la tentation et il aurait désobéi au plan de Dieu. Et on a toujours vu dans l'Écriture, hein, Jésus qui arrivait à se sortir de toutes les situations, hein, même les plus critiques, même à un moment donné, il a failli être lapidé, on le voit dans Jean 10 au chapitre 10. Et là, nous voyons un Christ qui est à peine, je dirais, maître de son émotion. Au verset 37, il dit « Il prit avec lui, Pierre, et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Et il se dit alors, mon âme est triste à mourir. » Donc, vous imaginez un petit peu l'état dans lequel il se trouvait. Alors, si je reprends cette expression « saisi de tristesse et d'angoisse », le texte nous parle d'un sentiment extrême et Jésus réalise plusieurs choses. Il réalise sa mort, il réalise aussi qu'il va être abandonné, il réalise aussi tout le supplice et la souffrance. Mais le pire, c'est qu'il se dit, voilà, c'est aussi ça qui est difficile. Il sait qu'il pourrait ne pas aller jusqu'au bout. Et donc, pour aller jusqu'au bout de cette mission, hein, bien, à un moment, il aurait pu dire, j'arrête, hein, parce que c'était quand même, il était humain, il faut pas l'oublier, il y a cette part d'humanité, mais il a dû aller au plus profond de lui-même et se dire, non, pour le salut, pour obéir à Dieu et pour le salut des hommes, j'irai jusqu'au bout. Alors, je dirais à ce moment-là, la seule chose qui le fait tenir, c'est son amour pour les hommes, pour le salut des hommes. Et à ce moment-là, il ne fait appel à rien d'autre. Hein. Quand on lit ce passage, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de force surnaturelle qui pourrait adoucir un petit peu le moment, il est vraiment seul. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on parle de l'ange, mais je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et à ce moment-là, précis, Dieu le laisse seul face à ce choix. Alors, si Dieu tient le coup, c'est aussi parce qu'il veut obéir à son Père. Mais il y a, à mon avis, aussi un autre facteur qui permet à Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission. C'est la présence, je dirais, physique de ses disciples. Heureusement qu'il prend appui sur ses disciples pour décider de rentrer dans le jardin. Bon, il est seul, mais à un moment donné, il se rend à Gethsémané. Et là, il est accompagné par les trois disciples. Et il faut remarquer que pendant les 3 années de son ministère, Jésus a toujours été entouré. Il avait toujours besoin quand même d'avoir ses disciples, il avait une communauté qui le suivait. Et ça c'est important parce que ça montre le côté humain de Jésus et ça nous montre un peu toute l'importance de la doctrine de l'incarnation. Alors une des premières étapes c'est que il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Et il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. Alors Jésus a besoin de ses disciples les plus proches. Et les plus proches, effectivement, c'est Pierre, Jean et Jacques qui sont là. Et Jésus, à ce moment-là, il sent la pression qui monte. Et à ce moment-là, si les disciples n'avaient pas été là, peut-être que Jésus aurait pu craquer. Il n'y a pas de possibilité d'invoquer une force surnaturelle, ni un ange. L'ange interviendra plus tard quand Jésus aura résisté à la tentation de renoncer, quand il dira non, je vais jusqu'au bout. Alors peut-être que vous trouvez que c'est choquant de dire que Jésus-Christ aurait pu craquer. Mais c'est une vérité, rien ne l'obligeait à aller jusqu'au bout. Et le fait d'avoir Pierre, bon, bien sûr, il obéissait à un dessein plus grand, mais le fait d'avoir Pierre, Jacques et Jean, ça a été pour moi, je pense, un facteur déterminant. Et si on refuse ce point de vue, on refuse que l'humanité de Jésus qui était homme. Mais avant, Jésus a besoin d'être seul, il a besoin d'être face à lui-même. C'est un homme qui, au moment de rentrer dans le jardin, et pour aller plus loin, il a besoin d'être seul, mais il a quand même, au moment où il doit rentrer dans le jardin, il a besoin de savoir qu'il a ses disciples avec lui. Et les trois, dans ce texte, il est parlé de ses trois disciples. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Pierre, Jacques et Jean ont apporté de plus à Jésus en ce moment? Ben, je dirais que j'ai pas de réponse, hein. Parce qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse. Ça devait être ils étaient là, ils accompagnaient. C'était un accompagnement silencieux. On est en présence, je dirais, d'une proximité humaine, une forme d'empathie profonde qui s'exprime entre Jésus et les siens, et il y a quelque chose qui nous échappe. Mais c'est, je dirais, une forme de soutien psychologique où il n'y a pas vraiment de mots et de gestes. Bon, il y a un geste malheureux, mais ça vient après, hein, quand Pierre veut couper l'oreille d'un des serviteurs. Mais ça, c'est à la fin, quand Jésus va être emmené pour être jugé. Je le dis, Jésus a toujours été entouré de disciples, des hommes et des femmes, durant son ministère. Et à Gethsémané, donc, il ne fait pas exception. Pourquoi? Alors, ce qui est étrange, bien sûr, c'est que la souffrance et la douleur est tellement intense que on ne voit pas quelque chose qui se dessine. Il n'y a pas de parole ou de geste particulier. On est là face à quelque chose qui est un petit peu mystérieux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus a besoin de nous. Jésus avait besoin de ses disciples dans ce moment précis. Alors, bien sûr, vous allez dire, je mets les choses uniquement à une échelle humaine et j'ai mis des hypothèses. C'est vrai que ce que Jésus allait traverser avait été annoncé dans l'Ancien Testament. On le lit dans Ésaïe 53, qu'il allait souffrir et qu'il allait être abandonné par les siens. Mais c'est ce moment précis qui m'interpelle. C'est le moment où Jésus va rentrer dans le jardin, et à ce moment-là, la présence des trois apôtres a une valeur importante, une valeur symbolique, mais surtout il montre que Jésus nous demande, en tant que chrétiens, d'être présent, d'être, pour nous c'est un enseignement, d'être fidèle et présent. Même si parfois, ça nous arrivera souvent, face à la douleur, hein, on a vu c'est des exemples, face à la douleur ou à la difficulté, on est impuissant, on se sent complètement désemparé, mais ça n'empêche rien, il faut être là. Il faut être là pour consoler, il faut être là pour aider. Après, Dieu peut toujours nous donner, nous mettre les paroles qu'il faut, et Dieu peut intervenir. Mais c'est un peu ce que je vais vous faire passer, c'est cet engagement de se dire, être là, présent, autant matériellement que physiquement, que psychologiquement. Et pour moi, c'est une leçon d'éthique chrétienne pour chacun d'entre nous, parce que nous ne devons pas fuir devant la souffrance et l'épreuve, quelles que soient nos limites et nos craintes. Alors c'est vrai que quand une personne souffre du deuil ou de la maladie, la douleur est telle qu'elle ne peut pas être considérée comme simplement spirituelle, c'est ce que j'ai dit. Dieu exige que nous soyons humainement présents auprès de cette personne, selon nos différents moyens. L'idée que nous pouvons laisser seules des personnes souffrantes et de prier pour elles n'est pas biblique. Ce que Dieu veut, c'est que la souffrance soit prise en charge émotionnellement par ceux qui sont présents, par ceux qui sont proches. Alors, si vous êtes isolé face à l'épreuve, vous allez garder la totalité de votre souffrance et de votre douleur. Et elle va se rabattre sur vous et vous n'aurez que peu de moyens pour vous soulager et aucun moyen peut-être de vous en dégager. Alors je dis cela, mais maintenant je le nuance parce que on a vu parmi ces chrétiens persécutés que ceux qui criaient vers Dieu, Dieu venait les secourir. Mais c'est pour nous dire qu'il ne faut pas se réfugier uniquement dans cela. Il faut que nous puissions être présents pour aider ceux qui sont dans la difficulté et dans la souffrance. Et même l'épisode de Gethsémané va encore plus loin. Il est dit que le Christ a tellement souffert qu'à un moment donné, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Alors moi je me dis que, bon ça c'est un truc que je m'explique pas, j'ai fait une enquête, bon voilà c'est quelque chose qui est le symptôme si vous voulez, le fait ces caillots de sang, c'est le symptôme d'une souffrance qui n'est pas partagée et d'une souffrance d'une personne qui est isolée. Et peut-être que si les disciples avaient été plus présents, peut-être que Jésus n'aurait pas vécu ce type d'épreuve. Alors, il faut remarquer aussi une chose, c'est que Jésus ne demande pas qu'on souffre comme lui, Ce qu'il demande aux disciples, c'est de résister à la tentation et à l'épreuve pour qu'on ne l'abandonne pas. Alors c'est vrai que ce matin, on a beaucoup parlé de souffrance et d'épreuve. Et il y aurait une infinité de choses à dire sur le sujet. On l'a vu dans ce qui a été partagé avant. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que dans toute la Bible, il y a des exemples sur ce qu'aurait pu être, sur ce que doit être un compagnon, ce que doit être un soutien, un repère, une aide et une présence. Et les exemples dans la Bible ne manquent pas. Bon, il y en a plusieurs, hein. C'est pas forcément mis sous cet angle-là, mais il y a Moïse qui a eu besoin d'être soutenu par 70 personnes, 70 juges. Il y a David aussi qui avait besoin d'être entouré d'hommes de main. Mais surtout dans le Nouveau Testament, il y a les apôtres et un personnage aussi, c'est l'apôtre Paul, qui avait vraiment besoin d'avoir des compagnons de route, hein. Il les cite dans l'épître aux Colossiens. Mais bon, il n'y avait pas que des hommes, il y avait des hommes et des femmes, et les femmes avaient une importance capitale dans la vie de Jésus et aussi de l'apôtre Paul. Alors, le cas de l'apôtre Paul, il est parlant. Jésus, lui, il avait son cercle, et Paul avait ses compagnons. Et nous voyons que pour Paul, il était important d'être soutenu lorsqu'il était en prison. Il avait des compagnons de captivité, hein. On lit ça dans Romains 16 au verset 7 et aussi dans Colossiens chapitre 4 verset 10. Je vous lis pas les versets, mais simplement pour vous dire qu'il avait des compagnons qui étaient avec lui en prison et c'était important pour qu'il puisse tenir le coup et pour qu'il puisse exercer son ministère. Alors dans la Bible, il y a aussi des moments où la présence physique ou le fait de se retrouver ensemble permet aussi on n'est pas là uniquement pour souffrir ensemble, mais aussi pour se réjouir. La solidarité, l'entraide n'exclut pas le partage et la joie de se retrouver ensemble pour vivre des moments de convivialité. Alors pour ça, il faut relire et s'imaginer ce que pouvaient être des moments où Jésus partageait le repas. Le repas avec les disciples, et ça devait être aussi des moments où le fait d'être tous ensemble était quelque chose de particulièrement convivial et joyeux. Mais si on doit pousser, je dirais, l'exemple à fond du Nouveau Testament, ce que Dieu nous demande, c'est d'être des compagnons de captivité. Ça veut dire d'être des compagnons fidèles et consacrés. Et être, si vous voulez, à peu près dans le même esprit que ce que Jésus dit quand il parle dans Matthieu 25, où il dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » C'est là où on voit cette solidarité, cette présence humaine, être proche, et être engagé pour soulager la souffrance et pour aider son prochain. Il dit aussi, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Donc ce passage-là, il est cité jusqu'au verset 40, voilà. Alors ce matin, en conclusion, je n'ai que partiellement parlé de mon sujet, c'est-à-dire être présent physiquement, spirituellement et psychologiquement avec ceux qui souffrent. Ça rentre aussi un peu en relation avec ce qui a été partagé sur l'Église persécutée. C'est surtout être solidaire de ceux qui souffrent, certes, mais aussi de ceux qui sont engagés sur le terrain missionnaire et dont le témoignage ils le font au risque de leur vie. Alors, c'est vrai que nous sommes voués à vivre ensemble, à vivre chacun dans la communion fraternelle. Et il y a beaucoup trop d'exemples aujourd'hui, trop d'exemples de solitude et d'isolement pour qu'on reste, si vous voulez, replié sur soi-même. Alors attention, être un compagnon de route, être une personne disponible, c'est être avec ses limites et ses moyens, hein. Ne cherchons pas à faire du sensationnel ou de l'impossible. Parce que nous avons l'église locale et on a notre environnement immédiat, c'est un champ de travail et de service qui est là à notre portée et qui est là aussi pour que on puisse vivre pleinement notre mandat de chrétien. Alors, sachons être reconnaissants, ça c'est important, pour notre Église, pour ce qu'elle vit, et poursuivons aussi l'œuvre de Jésus en nous soutenant les uns et les autres. Et on peut voir que Gethsémané nous a ouvert la voie du partage et du soutien dans une dimension qui était spirituelle, mais aussi humaine. Alors que Dieu nous bénisse et nous encourage dans notre vie chrétienne. Amen.